Bonjour à tous, bienvenue dans cette webcast PwC Focus sur le thème enjeux et impact du projet de règlement DORA. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes plus de 150 personnes inscrites à cette conférence, ce qui témoigne de l'intérêt du sujet. Vous êtes 50% à peu près issus du monde bancaire, 35% du monde des compagnies d'assurance et de réassurance et 15% des sociétés de services, notamment technologiques. Je m'appelle Romain Camus, je suis associé au sein de PwC France et Maghreb. Je suis en charge de l'animation de nos activités en gestion des risques technologiques, spécialisé dans l'industrie des services financiers, en particulier en banque et en asset management. Je serai aujourd'hui accompagné pour l'animation de cette conférence d'Aurélien Borde, associé en charge des risques non financiers. Et nous avons ensemble le plaisir d'accueillir deux invités exceptionnels aujourd'hui, Nicolas Yanoulis, Team Leader Digital Finance au sein de l'IBA. Hello Nicolas. Et Jamel Bouzemaren, Senior Policy Expert au sein de l'IBA également. Nous avons choisi de vous parler de DORA aujourd'hui, alors que, je le rappelle, de nombreuses négociations sont toujours en cours concernant ce projet de règlement. Et ce projet n'entrera probablement pas en vigueur avant début 2023, l'IBA nous le confirmera. Si cela peut vous paraître peut-être lointain aujourd'hui, il faut pourtant s'y préparer dès maintenant. Pour vous y aider, quatre questions auxquelles nous allons essayer de répondre aujourd'hui. En quoi consiste ce projet de règlement? Quel sera son champ d'application? Quels sont les principaux volets de cette réglementation? Quels seront les impacts pour les acteurs au sein de l'industrie financière? Quelles sont évidemment, et c'est une question qu'on a régulièrement, les adhérences avec les autres textes, et notamment tout ce qui touche à l'externalisation. Et enfin, comment appréhender les enjeux opérationnels de ce projet de règlement européen et quelles actions vous devez entreprendre dès maintenant. Pour cette présentation, nous avons prévu 1h15 de temps. Vous aurez et vous avez la possibilité de poser des questions dès à présent via le chat. Nous avons prévu un temps dédié à la fin de la présentation de 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Cette session de Q&A se fera principalement en anglais, mais vous pouvez bien sûr envoyer vos questions dès maintenant en français et nous nous chargerons de les traduire si vous le souhaitez. Alors, pour commencer, je vous propose un petit point de contexte. Vous le voyez, nous observons depuis quelques années une accélération des transformations digitales dans les services financiers de façon générale, renforcée évidemment dans le contexte de la crise sanitaire, avec par exemple des décisions qui ont été prises par plusieurs établissements de repenser certains modèles de production avec plus d'externalisation par exemple, de recourir davantage à des solutions cloud, de faire appel aussi davantage à des solutions et des nouvelles technologies. Toutes ces transformations font émerger de nouveaux risques quant à la stabilité système financier en Europe, compte tenu fortes dépendances avec des prestataires de services critiques, évidemment, de la crainte de la montée des incidents opérationnels et des cyberattaques, et plus largement des interrogations, des questionnements sur la résilience opérationnelle numérique. Donc, dans ce contexte, et c'est ce qu'on a essayé d'illustrer avec le calendrier que vous avez en bas de page, nous assistons depuis fin 2019-2020 à une très forte actualité réglementaire sur tous ces aspects. Les autorités européennes de supervision, donc qui comprennent l'EBA, l'ESMA et l'EIOPA, se sont de plus en plus concentrées récemment sur les risques liés aux technologies de l'information et de la communication et à la sécurité de l'information. Donc, quelques éléments de calendrier. Donc, côté bancaire, on a eu une publication fin 2019 des orientations finales de l'IBA en vigueur depuis juin 2020. Vous l'avez peut-être entendu lors de sa dernière conférence annuelle, la CPR a incité les établissements, les a encouragés à prendre connaissance dès à présent du texte et à engager dès à présent une auto-évaluation et identifier les chantiers à mener. Et en février dernier, la CPR a publié un modificatif de l'arrêté du 3 novembre 2014, notamment sur la thématique du risque TIC et sécurité. Du côté des compagnies d'assurance, l'EIOPA a publié en octobre 2020 ses orientations sur la sécurité et la gouvernance des technologies d'information et de la communication applicables au secteur de l'assurance. Ces orientations apportent un certain nombre de précisions par rapport à la réglementation solvabilité 2 qui avait donné en 2016 un cadre général pour maîtriser les risques opérationnels. Ces dispositions n'avaient à à l'époque, pas été accompagnées par des orientations détaillées de l'EIOPA. C'est maintenant chose faite. Ces orientations ont été transposées en France par la CPR dans une notice publiée récemment le 18 juin 2021. L'ESMA, de son côté, s'est également positionné sur ces sujets avec des orientations sur le cloud outsourcing en décembre 2020 et une communication conjointe avec l'EIOPA et l'IBA en février dernier sur les modalités de mise en application d'Odora. Et puis, bien sûr, en septembre 2020, par la Commission européenne, la publication de propositions législatives comprenant notamment un projet d'Odora qui centralisera au sein d'un acte unique les règles existantes en matière de gestion des risques liés aux technologies de l'information et de la communication, avec une date d'entrée en vigueur probablement début 2023 au premier trimestre. Alors, je vous propose rapidement de vous expliquer pourquoi on parle de DORA aujourd'hui. DORA arrive à un moment où le risque lié aux technologies de l'information et de la communication et à la sécurité est à l'agenda de toutes les directions, direction des risques, direction de la conformité, direction de la compliance, direction générale, mais aussi des conseils d'administration de tous les clients avec qui on discute. On vous a indiqué sur ce slide six principaux obstacles aujourd'hui, six limites à une gestion efficace des risques opérationnels. Je ne vais pas tous les citer, mais le premier commentaire qu'on peut faire, c'est qu'il y a aujourd'hui une fragmentation de la gestion des risques liés aux technologies de l'information et de la communication dans tous les secteurs de l'industrie, avec plusieurs textes, des exigences différentes, des cadres de contrôle différents. Ça, c'est un premier commentaire. Le deuxième, c'est qu'on a évidemment une absence de règles détaillées complètes sur la thématique de résilience opérationnelle numérique au niveau européen, alors même que plusieurs acteurs de l'industrie se sont déjà organisés pour gérer des opérations de façon transfrontalière, posant donc de nouveaux risques. Donc ça, c'est un sujet qui doit être encadré. Et puis, peut-être troisième point d'illustration, les établissements ont mis en œuvre des testings, des tests de résilience opérationnelle qui aujourd'hui sont limités, pas suffisamment coordonnés avec l'ensemble de leurs sous-traitants et prestataires de services. Ces tests dépendent de la taille des établissements, des budgets, la qualité des prestataires, des priorités. Et donc, c'est insuffisamment probablement consistant d'un établissement à un autre. Donc, dans ce contexte, sans citer tous les points de ce slide, les apports de DORA sont multiples. Et c'est une question qu'on a eue souvent. Le premier apport évident de DORA, c'est de renforcer la qualité et la pertinence de la gestion du risque opérationnel en intégrant et rationalisant davantage la gestion de ce risque, notamment autour de la résilience opérationnelle. Ça, c'est quand même l'apport numéro un. Le deuxième, c'est de sensibiliser davantage les superviseurs aux cyber-risques et aux incidents liés aux TIC, avec des informations maintenant, ou demain en tout cas, centralisées. Troisième point, de favoriser la mise en place de tests approfondis. Et enfin, de doter les superviseurs européens d'un cadre de surveillance de risque, notamment en ce qui concerne la surveillance des tiers. Et ça, c'est un vrai sujet de préoccupation. Alors, très rapidement, vous le savez, le projet de règlement DORA fait suite à une consultation européenne. Il prendra la forme d'un règlement. C'est un texte législatif de niveau 1 qui entrera en vigueur immédiatement avec un contenu d'application directe. Donc, le texte, dès sa mise en application, deviendra force de loi pour tous les États membres 20 jours après sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il y aura bien sûr des délais de mise en œuvre liés notamment aux normes d'implémentation qui devraient être publiées par les AES. Vous le savez aussi, ça s'appliquera à tous les acteurs de l'industrie financière. Ça, c'est un point extrêmement important. Les banques, les assureurs, les courtiers, les sociétés de gestion, j'en passe, mais aussi tous les prestataires de services tiers critiques. Et donc, on pense aux cloud service providers, les fournisseurs de données, tout un tas d'acteurs qui aujourd'hui n'étaient pas concernés par les exigences réglementaires applicables au monde de l'industrie financière. Et DORA, pour la première fois, visera à mettre en place un cadre détaillé, complet, sur la résilience opérationnelle numérique. Je propose, sans en dire plus, peut-être de passer la main assez vite à Nicolas. Sur ce slide, vous voyez qu'on a repris les cinq domaines qui sont à appréhender dans le cadre de DORA. Aujourd'hui, dans le cadre de la présentation, on a choisi de vous en illustrer essentiellement deux. Le premier sur l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie de résilience numérique et le deuxième sur les prestataires de services TIC. Mais on pourra bien sûr répondre à vos questions sur les autres domaines. Voilà, je laisse la main à Nicolas pour le sujet du ICT and Security Risk Management. Nicolas, the floor is yours.
Thank you, merci beaucoup. So, go to the next slide. Thank you. So indeed, today we'll focus on a couple of the main components of the DORA legislative proposal. So as you can see here, there are these four building blocks of ICT risk management, ICT-related incidents, digital operational resilience testing, and then also ICT third-party risk management. And today I'm going to focus on ICT risk management, and then Jamal will speak a little bit more about the third-party risk management. So as Roman was saying, this is a legislative proposal. It consists of a regulation that's applicable to a wide range of the financial entities, as he explained, and a directive stipulating the changes to the sectoral directives to enable coexistence. Just a quick mention about the funding. It's important just to mention with regards to the third-party risk management, there is a new mandate for industry-funded model for the oversight of critical third-party providers. In terms of the timeline, the DORA Act is still in sort of the co-legislative procedure. We expect that it would be entering into force 12 months, sorry, apply 12 months after the entry into force. But the current expectation is that the political agreement could be reached only next year, with DORA entering into force in 2023 and then applicable from 2025. So there is still a way to go in terms of finalizing the legislation itself. So I will focus on ICT risk management, and there are two main components to this section. So the first is on the governance-related requirements, and this is Article 4. And here the aim is to align the financial entity's business strategies and the conduct of ICT risk management. It's really putting that onus, that responsibility on the management body. So the management body is going to be required to maintain a crucial and active role in steering the ICT risk management framework, but also actively pursuing and taking responsibility for strict cyber hygiene. So the full responsibility of the management body is in managing the financial entity's ICT risk from an overarching principle, but then further translated into a set of specific requirements. And that's focusing on the clear roles and responsibilities for all of the ICT-related functions, also on the continuous engagement of in the control of monitoring of ICT risk management, and in the full range of approval and control processes, and allocating the ICT investments and trainings. There is also an element of proportionality that's mentioned in this article. It's important to note that whilst there is this notion of proportionality, it is also embedded throughout the regulation. So in Article 4.3, it specifically talks about the monitoring arrangements with ICT third-party providers applicable to all financial entities except those micro-enterprises. And micro-enterprises is defined as an enterprise which employs fewer than 10 persons and whose turnover and/or annual balance before on the balance sheet is lower than, I think, 2 million. So then moving on to the next slide. Thank you. So then the next 10 articles are focusing on the ICT risk management framework. And that's setting out these kind of key principles and requirements on ICT risk management, which is in line with the joint ESAS advice that we published in 2019, where we identified that there was a lack of harmonization in this aspect, and therefore there was a need to better improve the ICT risk management across the board for all three sectors. So these requirements are inspired by relevant international, national, and industry set standards, guidelines, and recommendations, and they revolve around the specific functions in ICT risk management. So they go through the definitions of ICT systems, the identification of ICT-related business functions, the protection and prevention of ICT systems, the detection of anomalous activities, the response and recovery, and in particular, establishing the business continuity plan. Also, the backup policies and recovery methods, and then learning and evolving by reporting to the management board on findings related to the digital resilience strategy that an institution has to put in place. Also, communication with regards to any kind of ICT-related incidents, and then any major vulnerabilities as well. So these are kind of the sequence of activities that are covered in these sort of 9 to 10 articles there. And these financial entities are required to set up and maintain these resilient ICT systems to minimize the impact of ICT risk, to focus on this continuous basis of all sources of ICT risk, and then to kind of follow that through in terms of operational business continuity as well. The whole sort of objective is to ensure that there's prompt recovery after any ICT-related incident, and in particular cyber attacks, to limit that damage and then to prioritize the safe resumption of activities following that. So just to speak a little bit more about this section, the proposed regulation itself doesn't impose any specific standards, but rather it builds on the European and internationally recognized technical standards or industry best practices. In particular, it's picking up on the sectoral legislation that has so far been in place, so MiFID, CRD, etc., but then also aiming to harmonize that. The proposed regulation also covers the integrity, safety, and resilience of physical infrastructures and facilities that support the use of technology and the relevant ICT-related processes and people as part of the digital footprint of a digital entity, of a financial entity's operations. There is, as I mentioned, this notion of proportionality, and that comes out throughout with specific references in the regulation about when a micro enterprise would be excluded from certain requirements. And here we've picked up on these specifically. So with regards to the three lines of defense, on the risk assessment before a major infrastructure change, ICT risk assessment on legacy IT systems, etc. So there are a few points here where the micro enterprises are excluded from these requirements. Moving on to the next slide. So the final article, Article 14 in this section, then gives the mandate to the EBA, ESMA, and EIOPA in consultation with ENISA to draft regulatory technical standards. And there are a number of areas here which will be covered. And again, this is going to bring about the harmonization needed across the sectors, but also to provide the specificity for all of the financial institutions to apply the regulations accurately and consistently. So these are covering things like ICT security rules, tools, protocols, policies, measures, and procedures, how the ICT tools, policies, and procedures should incorporate security controls, to specify further the appropriate techniques, method, and protocols for network and infrastructure management, also on ICT BCP and also on disaster recovery planning as well. And then the aim is to submit these to the Commission 1 year after the date of entry into force. So as you will be aware, the EBA does have the current guidelines on ICT and security risk management in place. So it's estimated that the impact of this section, this chapter within the legislation, is probably one of the most consistent with what we already have in place for banking. You'll see from the guidelines, from the outline of the guidelines, we already have governance and strategy, ICT and security risk management framework, information security, ICT operations management, product and change, and business continuity management. So there is consistency with the DORA proposal, but then that we will be taking forward a gap analysis internally at the EBA to make sure to identify where the gaps are. At the same time, there will be a different level of specificity at the point of drafting the RTS, the regulatory technical standards, and this will happen in due course, and also to ensure that consistency across sectoral. So there will be a change in terms of the level of specificity, but as a basis, the EBA guidelines are deemed to be a good idea of where DORA is heading in terms of the next steps. So I will stop there and hand back to you.
Merci beaucoup, Nicolas. Donc moi, je suis Aurélien Borde et je suis associé chez PwC en charge des risques non financiers. Et à ce titre, on voit que le sujet DORA et le sujet résilience opérationnelle est bien entendu un des sujets de préoccupation majeurs dans les services financiers. L'idée, là, en quelques minutes, avant de repasser la parole à Jamel pour avoir le point de vue de l'EBA, c'est de faire un petit focus sur ce qu'on voit au niveau de l'industrie, sur le sujet du Third Party Risk Management, ou TPRM, ou risque d'externalisation en bon français. Alors, je veux bien qu'on passe au slide d'après. Merci beaucoup. Donc, le sujet du TPRM, il n'est pas complètement nouveau, mais c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler ces derniers temps, et tous les textes, toute la pression réglementaire qu'on entend autour de la résilience fait systématiquement référence à ce sujet et au risque d'externalisation en particulier. Quand je dis qu'il n'est pas complètement nouveau non plus, moi j'étais aux États-Unis à l'époque, mais déjà il y a, je dirais en 2015-2016, les banques américaines ont lancé des grands programmes de mise sous contrôle finalement du risque d'externalisation. Et c'est sans doute à ce moment-là qu'on a vu vraiment le sujet émerger plutôt de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a déjà quelques années, les banques européennes, et je dirais que c'est 2016-2017, et à ce moment-là, beaucoup sous la pression de la BCE, hein, ont aussi lancé des programmes de remédiation ou de renforcement de leurs dispositifs de risque sur le third-party risk management. Et donc, à ce moment-là, on a vu, nous, des grands projets se lancer, et ce sujet arrivait à... je dirais au sommet des priorités chez nos clients dans les services financiers. Aujourd'hui, et notamment à cause de DORA, mais bon, bah pas seulement, hein, mais le sujet est vraiment une top priority pour les chief risk officers. C'est vrai que jusqu'à il y a quelques années, ce sujet-là était beaucoup pris en charge par les premières lignes de défense et les directions des services informatiques. Aujourd'hui, les directions des risques, les directeurs des risques sont vraiment très, très, très attentifs et, je dirais, en charge du sujet parce qu'il y a une pression réglementaire, parce qu'il y a aussi une activité, je dirais, tous les jours dans la presse sur voilà, des pannes, des attaques cyber, des risques qui s'avèrent et qui sont liés aux third parties. Alors, j'ai pas mal parlé de l'industrie bancaire, mais un mot sur le secteur de l'assurance, qui a bien entendu quelques spécificités, peut-être un petit peu moins mature sur le sujet que le secteur bancaire, au moins jusqu'à il y a quelques années, mais avec quand même un texte réglementaire l'an dernier qui a remis un petit coup de pression sur le secteur aussi sur le sujet, et puis sans doute un secteur assurantiel qui est quand même en train d'avancer assez vite maintenant sur le cloud et sur les transformations liées au cloud, et donc un vrai sujet pour ce secteur-là. Sur voilà, comment traiter le third party risk, notamment sur vis-à-vis des acteurs du cloud. Voilà, je pense qu'on peut passer à la slide suivante qui va me permettre aussi de faire un peu la transition vers DORA. Donc, on a fait, alors c'est il y a quelques mois et c'est pas forcément représentatif de tous les services financiers, parce qu'on avait fait cette étude sur un panel de banques, de grandes banques françaises, et c'est en mars 2021, donc c'est pour ça que c'est pas forcément, je dirais, ça a un intérêt, mais c'est pas forcément généralisable ou complètement généralisable, mais on avait fait une étude de maturité, justement, du sujet du third-party risk management dans l'industrie bancaire, et notamment au regard des guidelines de l'EBA sur l'outsourcing qui sont, en tout cas, on a fait l'étude, un peu le texte de référence sur le sujet. Et alors, sans passer trop de temps sur le slide, mais je dirais en passant quelques messages importants ou les messages qui me paraissent le plus importants, ce que nous, on a retenu de cette étude de maturité, c'est qu'il y a deux sujets sur lesquels nos clients étaient assez matures, qui sont finalement la capacité à maîtriser ou à connaître en tout cas le périmètre des third parties et des prestations externalisées via le registre, et puis la méthode ou les critères pour identifier les activités qualifiées de critiques parmi ces activités externalisées. Là où il y a un niveau de maturité qui nous paraissait moins bon et en tout cas assez perfectible, c'est sur les aspects risk assessment et notamment la prise en compte du risque de concentration, hein, qui n'est pas toujours ni homogène, ni complètement déployé ou finalisé au sein des établissements. Donc il y a encore un vrai sujet d'amélioration sur le sujet du risque de concentration. Je dirais l'outillage au sens de la mise en œuvre de systèmes d'information robustes et voilà, avec toutes les qualités qu'on attend d'un système d'information auditable, etc., pour je dirais justement suivre et monitorer les tiers et les prestations externalisées. Concrètement, très souvent, le registre, c'est un fichier Excel ou une liste, voilà, une liste Excel. Ce n'est pas toujours, pas souvent, intégré avec un système d'information plus complet et puis le lien avec les autres dispositifs de risque, etc. Ça aussi, c'est un sujet d'amélioration, en tout cas, un point sur lequel nos clients, à mon sens, ne sont pas complètement matures. Et puis, le dernier sujet, peut-être, où il y a aussi un enjeu d'amélioration, c'est sur le finalement de la part de nos clients le monitoring de la continuité et donc de la résilience opérationnelle pour les processus qui sont exécutés par des tierces parties, parce que finalement nos clients ont mis des choses, enfin les acteurs des services financiers ont mis des choses en place, mais il y a un niveau de profondeur, de fréquence sur les revues, sur le monitoring qui reste assez hétérogène et qui est sans doute perfectible. Donc voilà, donc ce petit état des lieux, je ne pense pas qu'il a vocation à être parfait, ni complet, ni exhaustif, mais je trouve qu'il illustre quand même un peu la situation dans le secteur des services financiers, principalement dans le secteur bancaire. Et en gros, pourquoi est-ce qu'on voulait dire ça? C'est qu'on pense que Dora arrive à un moment où il y a déjà des choses en place, mais sans doute des choses améliorées. Et finalement, le niveau d'exigence que Dora va amener sur le sujet va être encore un petit peu plus élevé. Et donc voilà, la pression réglementaire, je dirais, continue dans la même direction. Je pense que j'ai passé les messages que je voulais passer. Jamel, je vous laisse.
Merci beaucoup. Bon après-midi à tout le monde. Alors, peut-être avant de rentrer dans le détail, et le contenu de la section relative à la gestion des risques avec les tiers, je pense qu'il est important de rappeler deux points. Alors le premier, comme l'a rappelé au tout début Romain, le Dora, nous sommes en cours de négociation, la proposition est encore en cours de négociation, et donc même si la partie relative à la gestion des risques avec les tiers est probablement une des parties les plus stables pendant cette négociation, la partie en revanche relative à la surveillance des prestataires de services critiques, elle fait l'objet encore de pas mal de négociations, notamment sur les aspects institutionnels et sur les ressources qui seront allouées aux autorités de surveillance. Et le deuxième aspect important, c'est peut-être de rappeler des éléments de contexte sur les raisons de la proposition Dora et ce qui nous permettra de comprendre un peu ses objectifs. Donc, la proposition Dora, d'abord, s'appuie sur une recommandation qui a été faite par les autorités européennes de supervision, donc l'EBA que nous représentons avec Nicolas, mais également les IOPA et l'ESMA, en matière de gestion des risques et de cybersécurité, une opinion qui a été publiée en avril 2019. Et cette proposition repose en partie, et notamment la partie relative à la gestion des risques avec les tiers, sur nos travaux en matière d'externalisation et notamment les orientations de l'EBA en matière d'externalisation. Comme vous le savez, les tiers prestataires de services informatiques sont souvent eux-mêmes une source de risques informatiques et de cybersécurité, de sorte qu'une gestion appropriée des risques informatiques liés à ces tiers constitue un élément de la politique globale de gestion des risques des établissements. En parallèle, Aurélien a évoqué le risque de concentration, est un sujet de préoccupation majeure pour les autorités européennes de supervision, notamment en ce qui concerne la stabilité financière. Et cette préoccupation est particulièrement vive en ce qui concerne l'utilisation des services cloud, dans la mesure où, comme vous le savez, il y a juste quelques acteurs qui prestent leurs services pour la majorité du secteur financier en Europe. Donc, c'est dans ce cadre, en fait, que les ESA On proposait à la Commission la mise en place d'un cadre de surveillance approprié pour le suivi de ces prestataires critiques, dans la mesure où leurs activités peuvent avoir une incidence sur la stabilité financière. Et donc, dans ce cadre, une coordination européenne et internationale était largement souhaitable à l'époque. Puisque on parle de DORA au niveau européen, mais c'est vraiment un sujet de préoccupation également au niveau global. Il y a des discussions en ce moment au comité de Bâle, il y a aussi des discussions via le forum de stabilité financière sur la manière d'appréhender ce risque-là. Par ailleurs, un autre élément de contexte important, et je pense qu'il n'y a pas vraiment besoin de le préciser énormément. Je crois que la pandémie a eu un impact significatif également sur la volonté du législateur européen d'établir un cadre contraignant dans l'Union européenne pour renforcer la gestion du risque informatique. En effet, l'utilisation des technologies et de l'information et des communications par les établissements financiers et par leurs clients a rapidement augmenté pendant la pandémie, accélérant la transformation numérique dans le secteur financier. Et comme nous l'avons également précisé dans des rapports publiés par le BA, notamment le rapport d'évaluation des risques que nous publions sur une base régulière, le secteur financier affiche la plus grande part de cyberincidents après le secteur de la santé. Les établissements de paiement, les assureurs et les banques coopératives étant les plus touchés pour le moment. Le Fonds monétaire international aussi a d'ailleurs estimé que le nombre de cyberattaques a triplé au cours des 10 dernières années. Donc, voilà un peu les éléments de contexte sur la proposition de DORA. Et pour revenir un peu sur la partie qui nous intéresse, donc la partie de gestion des risques avec les tiers, celle-ci est composée de deux aspects, comme vous le voyez sur le slide. D'abord, une partie de disposition de principe relative à une bonne gestion des risques liés aux tiers prestataires de services en général, et le cadre de surveillance de ces prestataires que j'évoquais tout à l'heure. Donc, je disais que cette partie relative aux dispositions générales, aux dispositions de principe concernant la gestion des risques, n'était pas totalement nouvelle parce qu'elle reprenait en partie les principes qui figuraient déjà dans les orientations de l'ABE, mais aussi dans MiFID et dans Solvabilité 2. L'objectif étant le respect par les établissements financiers d'un certain nombre de principes clés concernant la gestion des risques découlant de leurs relations avec les prestataires de services informatiques, dans la mesure où ces établissements sont demeurent responsables du respect de leurs obligations réglementaires vis-à-vis du superviseur. Cette partie contient également des éléments sur l'application du principe de proportionnalité et des éléments sur la qualification de services ou de processus ou de fonctions de critiques ou essentielles ou pas en fonction d'un certain nombre de critères. Et ces critères, la définition de ces prestations de services critiques reprend exactement la définition qui existait déjà dans le cadre de l'externalisation. Par ailleurs, la proposition harmonise également des éléments liés à la relation avec les prestataires. Ces éléments couvrent les aspects minimaux jugés essentiels pour permettre aux établissements financiers d'assurer un suivi complet de leurs relations avec les tiers, notamment en amont de la relation. Aurélien mentionnait tout à l'heure des aspects de gestion des risques avant même les stipulations contractuelles et c'est un élément important de DORA avec la mise en place de due diligence nécessaire, une évaluation des risques appropriés, la qualification du service en service critique ou important et l'éventuel recours à des chaînes de prestataire. Il y a également des éléments importants relatifs à la relation contractuelle sur la performance du service, la sécurité, les mécanismes de contrôle, les plans d'activité, mais également des éléments sur les relations post-contractuelles avec des stratégies de sortie et de substitution. Par ailleurs, il y a des éléments qui, là aussi, ne sont pas totalement nouveaux, qui doivent figurer dans les contrats avec les prestataires de services IT, notamment l'indication des lieux où les données doivent être traitées, les dispositions pertinentes en matière d'accessibilité, de disponibilité, d'intégrité et de sécurité et de protection des données à caractère personnel, les garanties d'accès, pour les établissements financiers, mais également pour le superviseur, les droits d'inspection et d'audit, et tous ces éléments que vous connaissez déjà dans le cadre des relations qui existent en matière d'externalisation. Également la mise en place de stratégies de sortie spécifiques et des droits de résiliation expressément mentionnés par Dora. Par ailleurs, comme vous le savez, nous sommes en train de travailler sur des clauses standards pour aider les établissements financiers à utiliser ce type de clauses. C'est un projet de la Commission européenne dans lequel les ESA participent et qui reprennent en partie la plupart des obligations figurant dans Dora concernant les relations contractuelles avec ses prestataires. Un autre point important qui reprend également les orientations en matière d'externalisation, c'est que les établissements financiers seront tenus d'établir un registre des informations sur les relations qu'elles tiennent avec leurs prestataires de services. Le BA et les autres ESA seront en charge d'élaborer un template pour ce registre. Des éléments figurent déjà dans les orientations de l'EBA sur le contenu de ce registre. Néanmoins, Dora donne un mandat sur ce point, notamment l'élaboration de standards techniques qui, comme vous le savez, sont des mesures de niveau 2 qui sont directement applicables et qui s'imposent aux autorités compétentes. Un autre point relatif au registre et qui est important est que ce registre sera utilisé non seulement par les établissements pour évaluer toutes les informations relatives à leur relation avec les tiers, mais également pour évaluer le risque de concentration au niveau individuel. Ce registre sera sur demande envoyé en tout ou partie aux autorités de supervision qui l'utiliseront également pour établir la criticalité des prestataires de services qui seront soumis à un cadre de surveillance. Alors, il y a un certain nombre de critères qui sont prévus par Dora et qui devront en plus être précisé par l'intermédiaire d'un acte délégué de la Commission européenne. Alors, je peux vous parler de certains critères, notamment l'effet systémique sur la stabilité, la continuité ou la qualité de la fourniture de services financiers dans le cas où le prestataire de services informatiques serait confronté à une défaillance majeure. Le caractère ou l'importance systémique des entités financières qui dépendent du tiers prestataire de services informatiques, la dépendance des entités financières à l'égard de ces services et le degré de substitutabilité sont des critères qui devront être pris en compte pour la qualification de prestataire de services informatiques critiques. Donc, ça, c'était le premier point sur la partie relative à la gestion des risques avec les tiers. Le deuxième point, c'est comme j'en faisais référence, c'est le cadre de surveillance qui sera élaboré pour ces prestataires. Vous m'entendez ? Je n'ai pas du tout de retour.
Oui, oui, bien sûr, on vous entend très bien, Jamel.
Ah, d'accord. Et par ailleurs, les slides aussi, je ne sais pas si… je donne des. Ouais, non, non, parce que je ne vois pas. Alors moi, je ne le vois pas sur mon écran.
On est sur le slide 24, là.
Ouais, je ne le vois pas sur mon écran, mais ce n'est pas grave. Alors, juste avant peut-être de passer au cadre de surveillance, je faisais mention de certains mandats qui seront attribués aux ESA, et pas seulement à l'EBA, mais je dis bien aux ESA, donc les IOPA, l'EBA et l'ESMA qui devront coopérer sur notamment l'établissement de modèles standards pour le registre d'information, préciser le contenu détaillé de la politique contractuelle relative à l'utilisation de services informatiques, les types d'informations à inclure dans le registre et également des éléments nécessaires pour déterminer, évaluer la sous-traitance de fonctions critiques ou importantes. Donc, le deuxième aspect de la gestion des risques avec les tiers, c'est la surveillance de ces tiers. La proposition DORA vise à promouvoir la convergence en matière de surveillance du risque lié aux prestataires de services informatiques dans le secteur financier en soumettant ceux qui sont critiques à un cadre de surveillance de l'Union. Grâce à ce nouveau cadre législatif harmonisé, les AES désignés comme lead overseer pour chaque prestataire de services essentiel seront habilités à veiller à ce que ces prestataires de services jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement du secteur financier et que ceci fasse l'objet d'un suivi adéquate à l'échelle européenne. Je ne sais pas, alors, comme je ne vois pas les slides, j'avais prévu un slide où vous pouvez voir le cadre de surveillance envisagé par le règlement qui s'appuie largement sur l'architecture institutionnelle existante dans le domaine des services financiers, où le Joint Committee des autorités de supervision assure la coordination intersectorielle en ce qui concerne toutes les questions relatives aux risques liés aux prestataires informatiques. Et dans ce cadre, le Joint Committee des trois ESA aura un certain nombre de pouvoirs. D'abord, la mise en place d'un forum de surveillance en tant que sous-comité qui sera chargé d'élaborer les travaux et de préparer les travaux du Joint Committee, de désigner le lead overseer parmi la BE, les IOPA ou l'ESMA pour chaque prestataire de services informatiques critiques, établir, publier et mettre à jour chaque année une liste des prestataires de services critiques au niveau de l'Union et décider pour les prestataires de services informatiques qui souhaiteraient utiliser la clause de opt-in, décider dans les 6 mois si un prestataire sur base volontaire pourrait être soumis à ce cadre de surveillance. L'autorité de surveillance qui, parmi l'EBA, les IOPA ou l'ESMA, qui sera chargée ou qui sera nommée lead overseer, aura un certain nombre de missions et de compétences en matière de supervision. D'abord, adopter un plan de surveillance individuelle détaillé pour chaque prestataire de services techniques et disposera des pouvoirs suivants. Demander toutes les informations et les documents pertinents pour les besoins de la surveillance, mener des enquêtes et des inspections générales, demander des rapports précisant les mesures prises ou à envisager par les prestataires de services et à adresser des recommandations directement à ces prestataires de services, avec la possibilité probablement d'imposer même des astreintes en cas de non-réponse à ces recommandations. Sur la partie sanctions enforcement, c'est une partie qui fait actuellement l'objet de pas mal de discussions au niveau de la Commission européenne et au sein du Parlement. et avec peut-être l'idée d'imposer également l'établissement dans l'Union européenne d'un établissement pour les besoins d'imposer des sanctions s'agissant des prestataires de services informatiques qui normalement sont basés dans les pays tiers. Ce système de surveillance sera basé également sur une coopération avec les autorités de supervision nationale, puisqu'elles seront en charge ensuite de donner suite à l'application concrète des recommandations qui ont été faites par les autorités de surveillance. Donc voilà un peu pour une vision un peu globale de ce qui est prévu dans le cadre de DORA et sur ce quoi nous travaillons actuellement. Donc je laisse place aux questions. Désolé, mon écran est figé, je ne vois absolument rien. Mais
c'est parfait, Jamel. On a réussi à suivre le message avec les slides correspondants. Donc tout va bien. Merci beaucoup.
D'accord, parfait.
Alors il y a eu Jamel, ça a suscité beaucoup de questions, donc on va y venir dans quelques minutes. Juste peut-être avant d'arriver aux questions, on souhaitait pouvoir échanger avec vous sur les modalités finalement de préparation à DORA, hein, puisque on voit que on est encore dans un texte qui est en cours de discussion, de négociation. Notre recommandation pour vous, c'est d'être proactif, hein, en vous préparant dès aujourd'hui sur la mise en conformité et d'être prête pour DORA. Et donc, on vous encourage à travailler dès aujourd'hui sur l'évaluation de votre situation de conformité actuelle, hein, donc de comprendre où vous en êtes et de mettre en œuvre une feuille de route selon les principes évoqués, notamment de proportionnalité. Et on vous a mis sur ce slide pour vous aider à vous y préparer quatre convictions que sont les noms sur le sujet, quatre points clés sur lesquels il nous semble important de travailler pour que cette mise en conformité se fasse le plus fluidement possible et soit un succès. Donc, quatre points clés qui nous semblent importants. Le premier, c'est de définir une gouvernance adaptée en impliquant toutes les parties prenantes, hein, donc toutes les fonctions, notamment en charge du risque lié aux technologies de l'information et de la communication et de la sécurité à travers les trois lignes de défense. Hein. Donc, cela veut dire, on en a parlé, des directions des risques, des DSI, des directions de la conformité, direction des opérations, RSSI. Et pour la gestion des tiers, il faut aussi savoir, évidemment, solliciter les achats, les métiers concernés, etc. Donc, tout ça va aussi avec la volonté de mieux articuler les lignes de défense sur le sujet de la gestion du risque TIC et sécurité au sein des établissements afin de positionner finalement les bonnes compétences aux bons endroits et les bons dispositifs de maîtrise des risques au bon niveau. Ça, c'est le premier sujet important, c'est la gouvernance. Le deuxième, et je pense que vous connaissez tous ce sujet parce qu'il n'est pas spécifique à DORA, c'est la proportionnalité. Elle va vous permettre de définir dans quelle proportion les exigences de la réglementation doivent être mises en œuvre au regard de vos activités, de votre spécificité, de vos spécificités. Donc, c'est très important pour ça d'avoir une approche par les risques. Et ça doit être une des premières étapes. Hein. Et on l'a peut-être pas... Enfin, je pense que vous l'avez compris entre lignes. DORA est beaucoup plus prescriptif hein, que les orientations qui ont été publiées jusqu'à présent de l'EBA ou de l'IOPA. DORA ne vous demande pas juste de vous aligner sur des principes, mais de faire preuve de proportionnalité et de tout mettre en œuvre pour renforcer un certain nombre de fonctions clés, comme on vient d'en parler, le third party risk management, la façon de gérer la résilience avec aussi des niveaux d'indicateurs clés et de suivi des activités. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'une simple gestion de DORA basée sur des politiques et des procédures ne suffira pas. Il faut aller beaucoup plus loin que ça. Donc, ça, c'est la proportionnalité. Le troisième concept ou troisième point clé, c'est la compliance by design en lien avec le nécessaire effort de convergence que vous devez faire pour aligner les initiatives de mise en conformité avec Et on sait que vous avez entrepris beaucoup de travaux pour répondre à des exigences réglementaires diverses. Donc, l'enjeu, c'est d'aligner ces initiatives avec celles de DORA et d'en faire un processus de compliance by design avec une revue de vos processus et systèmes afin de vous assurer qu'ils intègrent nativement en fait, ces exigences réglementaires, toujours avec une approche par les risques et toujours autour de la convergence pour éviter de travailler avec plusieurs frameworks et finalement de faire converger ça vers un seul et même effort et aussi, in fine, d'éviter d'avoir plusieurs équipes en silo qui travaillent sur ces différents sujets. Donc, derrière DORA, et je dirais la philosophie du texte, il y a cette idée de convergence des efforts, de convergence des équipes et de convergence des initiatives. Et quatrième point qui nous semble important, c'est le reporting pour augmenter la visibilité autour de l'avancée du programme autour de DORA et de ses succès. Donc pour nous, c'est important que vous communiquiez régulièrement vis-à-vis des parties prenantes, mais aussi vis-à-vis du régulateur et du superviseur pour indiquer où vous en êtes, aussi pour mobiliser les équipes. C'est un élément important de reporting et de communication. Voilà pour ce premier message. Ensuite, ce qu'on souhaitait vous dire très rapidement, comment s'y préparer, évidemment en fonction de votre taille, de votre activité, les moyens alloués, les stades peuvent être différents. Donc encore une fois, la proportionnalité, elle est importante, il faut être pragmatique, l'approche par les risques, elle est fondamentale. C'est important d'embarquer toutes les strates managériales qui sont impactées, on l'a déjà dit. On a, nous, accompagné un certain nombre de clients dans différentes industries sur la compréhension du niveau de compliance actuel au regard des enjeux réglementaires. C'est quelque chose pour lequel on a des leviers et des accélérateurs. Et on vous a affiché donc à l'écran, finalement, le séquencement qu'on propose de mettre en place et qui démarre par une analyse de votre contexte. Et donc là, on parle de la proportionnalité. Ensuite, une évaluation, c'est, je dirais, l'étape numéro d'affaires de votre niveau de conformité pour savoir où vous en êtes aujourd'hui et pourquoi vous en êtes là et quels sont finalement les efforts à mettre en place pour vous mettre au niveau de conformité entendu et de définir, bien sûr, un plan d'action qui devrait être déployé au regard d'un calendrier sur lequel que vous définirez avec des enjeux de reporting régulier et de communication. Vous voyez, on n'a pas indiqué de calendrier ici parce que le calendrier, il dépend de beaucoup de choses. Il dépend de votre organisation, de vos enjeux, de là où vous en êtes en termes de conformité, des enjeux de proportionnalité. Ces sujets-là peuvent prendre du temps. C'est la raison pour laquelle, encore une fois, et je me répète, on vous recommande d'y travailler dès maintenant parce que, encore une fois, DORA n'appelle pas juste à mettre en place des politiques et des procédures, mais d'aller beaucoup plus loin sur toutes les dimensions des textes. Et on a souhaité vous présenter, mais vraiment très rapidement, et si vous avez des questions, on sera ravis d'y répondre. On a développé dans le cadre de missions récentes des accélérateurs DORA avec un certain nombre de tableaux de bord que nous avons développés qui permettent d'avoir une vision consolidée sur le thème de la résilience opérationnelle numérique et qui peuvent être très utiles dès lors que vous souhaitez informer un board, un conseil d'administration, le management sur là où vous en êtes en matière de pilotage et de maîtrise des risques opérationnels et des enjeux autour de DORA. On a un certain nombre de tableaux de bord qui permettent d'évaluer en fait et de suivre le niveau de maturité pour chaque sujet, chaque exigence de DORA en fonction des projets qui sont en place. Et vous voyez, on a aussi développé des outils qui permettent de visualiser finalement votre niveau de conformité par territoire, par métier, par activité, où que soit localisé en Europe l'activité concernée. Donc on a ce type d'outils extrêmement pratiques qui permettent de répondre à des enjeux de visibilité, de communication, de tableau de bord sur l'avancement DORA. Et donc, on sera ravis d'y répondre si vous avez des questions sur ce sujet. Donc, je propose de passer aux questions-réponses maintenant. Alors, Est-ce qu'on peut faire apparaître Nicolas?
Oui, voilà. bonjour à tous.
Nicolas. Merci à toi de nous rejoindre. Donc, on garde notre promesse qui est d'avoir un bon quart d'heure d'échange avec Libye sur la thématique d'Aura. Donc, je crois qu'il y a des questions qui sont arrivées. Nicolas, je te laisse.
Oui, mais comme tu l'évoquais, Romain, effectivement, il y a un grand nombre de réactions des participants et un grand nombre de questions. Donc, je vais peut-être commencer par une des premières qui est assez générale. Qui est, alors je vais la faire en français puis en anglais pour Nicolas, qui est comment faire converger DORA avec d'autres initiatives et réglementations telles que la directive NIS. Donc en anglais, how to converge DORA with other initiatives and regulations such as NIS in Europe. Voilà, alors je ne sais pas ce que, si, qui veut répondre.
If you want, I can say... a word. I will do it in English. Obviously, NIS directive is a lex specialis. The DORA is a lex specialis compared to the NIS, which has a broader scope. And the to give a bit of reassurance also is that on the IT side, a lot of mandate, several mandates, let's say, will be done in cooperation with the European Banking Authority and the other ESAs, together with the ENISA agency. So we are in close contact with them. They will be part of the mandate that we will need to draft. And the scope of NIS is much more broader than the one of DORA, which is very strictly limited to the ICT services in the financial sector. I don't know if Nicolas, you want to add something else.
I think the hardest part to reconcile from the NIS directive is the instant reporting, but that is taken into account in the discussions that are ongoing at the moment, and it is something that we are working on. So, as Jamal said, it's DORA is the lex specialis, so we do foresee that DORA would take precedence over NIS. But yes, there is an element there of the instant reporting that we do need to take into account.
And actually, if I may add also, during my presentation, I was referring also to international coordination. So it's not only between the EU authorities, where sometimes the ESAs together with the competent authorities will be involved together with ENISA. But also at global level, you have several initiatives that make sure that the international framework will be consistent. I'm thinking in particular to the Basel Committee, the IAIS for the insurance, and the FSB.
Okay, thank you very much, Jamel. I don't know if we have any other reactions, or otherwise I can jump to another questions we had from the participant, which relates to the insurance sector actually. So it's quite a simple question, which is, are insurance brokers impacted by DORA?
Alors, I can take that one if you want, Nicolas and Jamel.
Yes, please go ahead.
Okay. Je vais répondre peut-être en français sur celle-ci. Donc, on parle des courtiers d'assurance, j'imagine.
Absolument.
C'est ça. Ok. Donc la réponse est oui. Le projet. La réponse, je vais la faire en deux temps. C'est que oui, le projet DORA comprend bien les intermédiaires d'assurance et de réassurance et les intermédiaires d'assurance à titre accessoire. Mais, et vous le savez probablement, les discussions sont toujours en cours aujourd'hui sur le sujet. On sait que la Fédération européenne de l'assurance estime que leur inclusion généralisée est disproportionnée par rapport aux risques qu'ils posent et ils réalisent quant à leur capacité. Donc, il y a un certain nombre de discussions en cours sur ces sujets-là. Mais sur le principe, et c'est ce que me rappelait Jamel au début de réunion, c'est bien prévu que les intermédiaires d'assurance, donc les courtiers, parce que j'imagine c'est ça dont on parle, soient concernés par le texte. Même si, encore une fois, des négociations sont en cours aujourd'hui.
Merci, merci Romain. Une autre question, alors toujours dans le domaine de l'assurance, qui concerne les apports de DORA en matière de gestion des risques liés aux prestataires de services informatiques, par rapport notamment à Solvabilité 2.
Alors, je vais repartir du cadre qui existe en matière d'externalisation, puisque Solvabilité 2 contient les mêmes dispositions que MiFID en matière d'externalisation. Et les orientations de l'EBA ont été élaborées sur la base de ces dispositions-là, puisqu'on voulait assurer aussi une cohérence cross-sector. Et donc, évidemment, les dispositions de DORA qui ont été reprises, déjà, elles proviennent pour la plupart de ce qui existe en matière d'externalisation, et elles sont tout à fait cohérentes avec les dispositions de Solvabilité 2 en matière d'externalisation, comme elles le sont pour les opérateurs de marché également.
Merci, merci Jamel. Une autre question qui vient de nous arriver, donc qui cette fois est plus en relation avec le texte, donc qui concerne un sujet qui a été évoqué par Nicolas notamment, c'est-à-dire le modèle des trois lignes de défense. La question étant, est-ce que DORA impacte ce modèle? Donc, in English, does DORA question the model of the three lines of defense?
Not really. I can take this one also because I was in charge of the, I was leading DBA on the internal governance guidelines, where it's further specified what do we intend by the three lines of defense model. So basically, we have a lot of questions related to IT and the positioning of IT into the three lines of defense model, but actually we do not see so much difference with any other function. I mean, the idea is to have three lines of defense. What matters for us as a regulator and what matters to a supervisor is the degree of independence of the second line and third line of defense, and that the first line manage the risk. And it's exactly the same for the ICT risk. You need to have a first line of defense managing the ICT risk, and a second line of defense that oversee, I would say, the first line of defense and the third line of defense with an internal audit, with clear reporting lines also in case of a significant incident. That what matters to us. And just also to answer to a few issues that are constantly popping up is that in the outsourcing guidelines, we refer, and the ICT guidelines, we refer also for the possibility to have someone at the second line of defense explicitly appointed for managing ICT risk, but it's not. This is not the intended purpose. What we want, we do not really interfere with the way financial institutions organize themselves. What matters for us is that even the compliance, for example, could manage the ICT risk. What we want is that the ICT risk is managed, actually.
Merci Jamel. I don't know, maybe Nicola, do you have any additions to this?
No, because Jamel actually drafted that section for our guidelines. So.
Okay. Donc une autre question. Nous avons beaucoup de réactions sur l'externalisation, sur la gestion des tiers dans le chat. Donc une question qui revient souvent concerne les synergies avec les différentes guidelines qui existent, notamment en matière d'outsourcing. Donc on pense aux guidelines de l'IBA, de l'EIOPA, mais également de l'ESMA. Donc la question qui revient le plus souvent est finalement quelles sont les synergies entre ces différents textes. So in English, what are the synergies between the EBA, EIOPA, ESMA guidelines on outsourcing?
Jamel, it's your to take the outsourcing.
Sorry, it's again your topic, Jamel.
Oh, you're muted.
On vous entend pas, oui.
When we drafted, je vais le faire en français. lorsque nous avons élaboré les orientations en matière d'externalisation, l'ESMA est autour de la table en fait. Et donc l'ESMA s'assure que nos orientations étaient en ligne avec les exigences MIFID. Malheureusement, ces orientations s'appliquent uniquement pour le secteur bancaire, les établissements de paiement et ESMA est assise. Mais il n'y avait pas les IOPA, mais dans le cadre des orientations qui ont été élaborées par la suite, par les IOPA et par l'ESMA, nous avons coopéré étroitement à l'élaboration de ces guidelines et elles sont basées sur nos orientations, en fait, largement inspirées par nos orientations. L'approche a été différente puisque ESMA et IOPA se sont basés sur le cloud exclusivement. Nous avions commencé en 2017 avec une recommandation sur le cloud. Mais on a eu l'impression, pour être tout à fait transparent, que ça donnait l'impression que l'externalisation vers le cloud était différente des exigences d'externalisation en règle générale. Et on est revenu là-dessus en mettant dans le scope, en intégrant dans le scope les recommandations à l'égard de l'externalisation des services cloud dans un document plus global qui concerne l'externalisation en règle générale pour ne pas donner l'impression que les règles sont différentes en fait. Voilà, mais sinon tout le monde est autour de la table et on coopère étroitement avec tout le monde.
C'est clair. Merci Jamel pour ces éléments. Alors on a un autre sujet qui revient très fréquemment dans les différentes questions, qui concerne le calendrier de mise en œuvre de DORA. Donc la question qui revient le plus, c'est quel est le délai laissé aux institutions financières pour se mettre en conformité avec DORA? For, again in English, what timing will financial institution have to implement DORA regulation?
Okay, maybe I take this one. So obviously it depends on the final legislative process and when the document enters into force and then becomes applicable. But then, so we are working on the assumption that it would become applicable 12 months after the date of entry. So the soonest would be, we're not anticipating that it would be finalized before early next year, so 2022, so 2023 to become applicable. But then the most of the requirements in there would take sort of 2 years for, in particular for our RTS, et cetera, to be to come into play. So we're looking at another 2 years after that. So it could even be 2025. We're sort of that's what we would expect for at least, and the oversight even longer. So there's still at least 3 years.
Okay. Thank you, Nicolas. Une autre question, mais qui cette fois est peut-être un peu plus technique et qui est peut-être pour toi d'ailleurs, Romain, concernant donc la supervision des tiers. Un des participants nous demande si des dispositifs tels que les rapports SOC ou les attestations ISAE 3402 permettront de répondre à DORA. Est-ce que c'est un élément de réponse? Est-ce suffisant ou faut-il aller plus loin? Donc c'est une question qui est assez générale et un peu technique. Voilà. Donc Romain, je te laisse peut-être.
Oui. Alors merci. On pourrait parler longtemps sur la question. C'est pas évident Alors ce que je peux dire, c'est que déjà il y a des rapports SOC 1, SOC 2. Les ISAE 3402 sont des rapports SOC 1 qui sont autour, qui s'intéressent à la qualité de l'information financière. Donc par essence, ils ne vont pas concerner tous les domaines couverts par les exigences des textes dont on parle là. Il y a peut-être d'autres types de rapports de type SOC 2 qui pourront être plus en phase avec les exigences attendues. Là aussi, ça mériterait de faire un gap assessment pour voir finalement quel est le meilleur outil. Tout ça, ce sont des outils, donc il faut se poser. Et c'est des outils que je connais bien en l'occurrence. Moi, ce que je pense, hein, c'est que probablement que les standards qu'on connaît aujourd'hui, ISO 3402 et autres, devront évoluer probablement pour intégrer d'autres objectifs de contrôle et d'autres contrôles au regard des exigences réglementaires dont on parle aujourd'hui. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'il y a des outils qui existent, comme les SOC 2, les ISO 3000, qui peuvent permettre de reprendre les exigences dont on parle aujourd'hui et de demander à vos prestataires de services leur niveau de compliance par rapport à chacun de ces contrôles. Donc oui, il y a des outils qui seront possibles. Probablement qu'un ISO 3402 ne sera pas suffisant pour l'intégralité de ce qui est demandé aujourd'hui, mais c'est un excellent point de départ. Aujourd'hui, ce qu'on voit beaucoup, c'est que les prestataires de services qui mettent à disposition des ISO 3402 commencent à mettre en place des SOC de report. C'est complémentaire, ça a du sens parce que c'est un objectif différent et je crois que ça vient vraiment s'inscrire dans cette idée de faire converger les efforts vers des obligations réglementaires. Finalement, pour ces prestataires, ils reçoivent énormément de sollicitations de leurs clients, des auditeurs de leurs clients aussi. Donc, ils ont besoin d'optimiser les efforts d'audit et donc ce type d'outil le permet d'y répondre. Voilà. Je fais bref, hein, mais on pourrait faire beaucoup plus long.
Merci Romain pour ces éléments de réponse. Une autre question qui revient concerne des concepts qui sont développés dans les textes et notamment la notion de fonction critique. Donc, une des questions qui a été posée concerne la définition de cette fonction critique dans le texte d'Andorra et également dans d'autres textes, hein, et le lien qui pourrait exister avec d'autres textes comme le FSB, Fed ou l'IBA, voire les textes de l'EIOPA ou de l'ESMA sur le sujet. So, in English for Nicola, can you give more details about the concept of critical function in the text and what is the link with other texts such as FSB, PRA, BOE, Fed or EBA on the same topic?
So, critical function, I mean, from the point of outsourcing, I don't know if you want to take over that from there, but when we were drafting the guidelines, of course, we were ensuring consistency between the other regulations and the other standards. There are a number of requirements that come with assuming the critical functionality, and that's an important part of from everything from the identification, the classification, to the disaster recovery and the business continuity planning. So it's a theme that it's a notion that runs throughout. I'm not sure whether it's that part of it that is not the critical and important from the outsourcing, but more the critical function of ICT.
In any case, maybe to add to Nicola, the definition of critical function or process or is exactly the same as the one under outsourcing. And you know, when we are at the table of the FSB or at the Basel Committee, obviously the idea is try to push for this definition that to have a consistent approach, not only at the EU level, but at the global level. But in terms of terminology, and the definition on what do we consider as critical, it's exactly the same definition on DORA and under the outsourcing guidelines. Then the outsourcing guidelines list a certain number of criteria on top of that to help a financial institution to qualify what is critical or important. DORA, I don't think that DORA does it. And this is where also I would like, because I've seen a question on the difference between outsourcing and third party risk management. And I think we should not oppose these two notions, because outsourcing is a form of third party relationship. Obviously, under DORA, with the increased use of digitalization, it's very difficult for financial institutions to determine what is outsourcing or not anymore, including with regard to the sub-outsourcing and everything. So the idea was to say that
to help institutions, they need to manage all their third party risk in terms of ICT in order to avoid this difficult qualification. So the outsourcing guidelines will stay because they apply not only to ICT, but to a broad range of services, while DORA will mainly focus on IT risk and the IT risk related to the outsourcing or the third party relationship regarding ICT.
Merci beaucoup. Alors Nicolas, il est 32, donc je ne sais pas s'il y a une dernière question peut-être avant de clore.
Alors peut-être une toute dernière qui
je finalement. Il y en a beaucoup en fait.
Il y en a un certain nombre et je pense qu'on sera ravis d'échanger avec les participants qui le souhaiteraient autour de ces sujets. Peut-être une dernière pour clore le sujet qui concerne, gérer la convergence, on en a beaucoup parlé de l'ensemble des textes. Donc la question est assez directe, à savoir dans quelle mesure DORA apporte quelque chose de nouveau. Donc quelles sont les adhérences par rapport à des textes qui sont déjà connus, de la CPR, de l'IBA, de l'EIOPA, de l'ESMA, mais dans quelle mesure finalement DORA, par rapport à ces textes, apporte quelque chose de nouveau. C'est la question de l'un de nos participants. And in English, for Nicola, to what extent the RAP brings something new to the table?
Thanks. So, I mean, that's quite a big question because it does bring a lot new to the table. You know, at the point I was involved in the drafting of the ESA's legislative, the ESA opinion, sorry, on legislative improvements to the Commission. And at that time, we worked together with the other ESAs to identify that there was nothing in this space that brought together or that highlighted the need for ICT and operational resilience. So it's really a huge step forward. It's bringing about the convergence amongst all of the sectoral legislations. It's highlighting the need for ICT security risk management. It's bringing it to the fore. I mean, at the moment, we've just got guidelines. Now it's bringing it into legislation that it's the responsibility of the management body. It's bringing it to the fore that we need to have testing, cyber resilience testing, this kind of notion that previously had just been a sort of within, you know, any type of operational risk management, you know, you need to do some kind of testing. Now it's very specific that for ICT risk management, you need to be doing this. The critical third party provider oversight is a massive, massive step forward for us. I mean, never before have ESAs taken forward this kind of operational supervision or oversight of other entities that are not within our sector. So this is also a huge step forward for us, a huge learning curve in terms of what we're going to be doing with these entities, but that supervision is there for a reason, because we know now that there's systemic risk involved, there is this concentration risk involved, and we do need to have an oversight of that. And also the instant reporting harmonization, it's something that the industry has been calling for many years. This is, again, another step forward in terms of what is the feasibility. We're looking at the feasibility of having a harmonized EU hub for ICT reporting. So huge steps forward and definitely you know, steps in the right direction, noting that digitalization and the way that we're going, it requires this kind of emphasis on ICT operational risk management.
Thank you very much, Nicolas. Jamel, do you want to add something on that?
No, I just want to underline what you already underlined also, Romain, on the fact that it's a very much a point of attention for both regulators and supervisors. Now and in the coming years, the Commission, it's part of a whole package on the digital finance strategy of the European Commission, and clearly it will be under the radar of a supervisor and considered as a priority for supervisor in the coming years.
Okay. Merci beaucoup. Je vous remercie tous. Alors évidemment, on manque toujours de temps hein, sur un sujet aussi important que celui-ci. Donc merci à tous d'avoir pu rester avec nous jusqu'à maintenant. Vous allez recevoir, enfin vous allez avoir à l'écran un questionnaire de satisfaction qui va s'afficher. Merci de prendre quelques secondes pour y répondre. On a pris note de toutes les autres questions auxquelles on n'a pas pu répondre et on essaiera de revenir vers vous sur ces différentes questions. Un grand merci à vous, Jamel et Nicolas. Thank you very much, Nicolas, for your time today. Jamel également. Et écoutez, à très bientôt pour d'autres sujets. Puis on reste à votre disposition sur ces sujets, Aurélien et moi-même, si vous souhaitez approfondir, évidemment, ou nous poser des questions. Merci. Excellente journée à tous.
Merci à vous.
Merci.
Et au revoir à tous.
Merci, au revoir.